voudrais lire un verset dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 61. Verset 1er, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Ce même verset, nous pouvons le retrouver dans l'évangile de Luc. Dans la bouche du Seigneur Jésus lui-même, Luc chapitre 4, verset 16. « Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue au jour du sabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire, et on lui donna le livre du prophète Ésaïe, et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance » et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur. Encore dans le psaume 147, verset 3, 4, 5, c'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bande leurs plaies, qui compte le nombre des étoiles, à elles toutes il donne des noms. Notre Seigneur est grand et une grande puissance, son intelligence est sans borne. Nous voyons dans ces passages que le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour bander leurs plaies. Et peut-être que nous pourrions lire un peu plus tard un ou deux exemples du Seigneur qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il y a quelques semaines, nous nous étions entretenus de l'histoire du reniement de Pierre, de Simon Pierre, et comment le Seigneur Jésus a guéri le cœur brisé de Pierre à cause de son reniement. Pierre avait été déloyal vis-à-vis de son maître, et nous avions lu quelques passages qui nous ont montré la manière que le Seigneur a employé pour guérir le cœur brisé de son disciple. Nous nous souvenons que au regard du Seigneur, Simon-Pierre avait pleuré amèrement. Son cœur avait été brisé. Et sans doute touché par le regard d'amour du Seigneur Jésus à l'égard de son disciple. Et ces larmes amères ont été sans aucun doute le début de sa pleine restauration. Et dans le psaume 145, nous voyons prophétiquement qu'il est parlé du Messie. Et c'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Un saint, un chrétien, un saint, peut avoir le cœur brisé par son reniement, peut avoir le cœur brisé parce qu'il s'engage dans un chemin qui n'est pas approuvé par Dieu, et puis il tombe, il fait une chute, et puis le Seigneur vient le chercher et le ramène. Et sans doute, il y aura des larmes amères. Mais nous voyons que le Seigneur est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bandent leurs plaies. Et c'est une grande consolation, c'est un grand réconfort de savoir que Dieu n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent à ceux qui ont le cœur brisé. Et nous voyons dans ces versets du psaume 145 que Dieu compte le nombre des étoiles. À elles toutes, il donne des noms. Et nous voyons là sa grandeur, sa magnificence, sa puissance, son autorité. C'est-à-dire que nous sommes absolument incapables, les hommes sont incapables de compter les étoiles. La création est encore sans doute en expansion, on ne sait pas beaucoup de choses. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu, il compte. Il compte les étoiles. Mais en même temps, nous voyons que s'il compte le nombre des étoiles, il peut entrer dans la profondeur d'un cœur brisé. Et s'il s'occupe des choses magnifiques de la création, il s'occupe aussi des cœurs brisés. Des cœurs brisés par le péché des hommes. Il n'est pas indifférent à quelqu'un qui a le cœur brisé à cause de ses péchés. Il n'est pas indifférent à une veuve comme la veuve de Naïn qui a perdu son fils unique. Et il va s'approcher de cette femme et il désire avant tout et avant même de ressusciter son fils, c'est de penser la plaie de son cœur. Et pensez aussi dans ce même chapitre de Luc, nous voyons aussi une femme pécheresse qui vient à lui dans le silence, qui se met derrière lui, et qui pleure. Elle pleure, le cœur brisé à cause de ses péchés. C'était une femme sans doute de mauvaise vie, mais le Seigneur, eh bien, il va s'occuper du cœur de cette femme. Et nous voyons, et nous l'avons exprimé dans la prière que que le Seigneur Jésus doit être notre modèle, un exemple pour notre vie de chrétien. Et est-ce que nous avons à cœur aussi de nous approcher d'hommes, de femmes qui ont le cœur brisé? Et le cœur brisé, on peut apporter le baume nécessaire pour guérir ces blessures. Et voyons donc que le Seigneur Jésus, il est venu sur cette terre et par amour, il a désiré guérir le cœur brisé des hommes et des femmes à cause de leurs péchés, à cause peut-être aussi de leur chute, mais il désirait toujours de s'approcher d'eux pour les guérir. On a évoqué l'évangile de Luc, on peut lire peut-être au chapitre 7. Verset 11. Et le jour suivant, il arriva que Jésus allait à une ville appelée Naïn, et plusieurs de ses disciples et une grande foule allaient avec lui. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait dehors un mort, fils unique de sa mère, et elle était veuve. Et une foule considérable de la ville était avec elle. Et le Seigneur, le voyant, fut ému de compassion envers elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Et s'approchant, il toucha la bière, le cercueil, et ceux qui la portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et le mort se leva sur son séant et commença à parler, et il le donna à sa mère. Et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a été suscité parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et le bruit de ce fait se répandit à son sujet dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Naïn, ça veut dire agréable. Et cela évoque sans doute ce que la terre peut être, un lieu agréable. Mais nous voyons que ce lieu agréable, eh bien, il est terni par la mort. Et voyons que prophétiquement, sans doute, le Seigneur qui a la vie, eh bien, il vient, il rend visite à l'homme dans une scène de mort. Et avec la troupe qui l'accompagnait de ses disciples et puis une grande foule qui allait avec lui, une foule considérable aussi était avec cette femme. Et nous voyons le Seigneur qui est ému de compassion. Et il ne va pas immédiatement pour ressusciter ce jeune homme qui était mort et qui était dans ce cercueil. Il manifeste son amour, sa miséricorde d'abord à cette femme, à cette veuve qui venait de perdre son fils, en lui disant, ne pleure pas. Et nous voyons l'application pratique de ce qu'avait annoncé Ésaïe, chapitre 61, et le psaume 147, le Seigneur Jésus qui vient pour guérir le cœur brisé. Et ce qu'il veut faire d'abord, avant de manifester toute sa puissance en résurrection de vie, vis-à-vis de ce jeune homme qui venait de perdre la vie, eh bien, il manifeste d'abord son amour à cette femme. Il désire guérir un cœur brisé. Et en cela, la manière d'agir, la façon d'agir du Seigneur est particulièrement touchante. Il essuie les larmes d'abord, et ensuite il enlève la cause de la douleur. Les frères ont dit, je crois dans un commentaire, que ses compassions passent avant sa miséricorde. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur cette terre, eh bien, son cœur était étreint. Étreint par ses compassions. L'homme pécheur, eh bien, son cœur était étreint de voir les conséquences du péché. Et son cœur était étreint de voir cette femme qui versait des larmes à cause de la mort de son fils. Et la première chose qu'il fait, il s'occupe du cœur brisé de cette femme. Et après, il va manifester toute sa puissance en résurrection. Dans le même chapitre, au verset 36, et un des pharisiens le pria de manger avec lui, et entra dans la maison du pharisien, il se mit à table, et voici une femme dans la ville qui était une pécheresse, et qui savait qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tenant derrière à ses pieds et pleurant. Elle se mit à les arroser de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête, et couvrait ses pieds de baisers, et les oignait avec le parfum. Et le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, « Celui-ci, s'il était prophète, saurait qui et quelle est cette femme qui le touche, car c'est une pécheresse. » Et Jésus répondant, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » C'est une scène qui est particulièrement émouvante, qui nous est permis de voir dans l'histoire de cette femme pécheresse. C'est la rencontre du Seigneur avec un pécheur, la rencontre du Seigneur avec une pécheresse. C'était une femme qui était connue, si on comprend ce que dit Simon le pharisien, elle était connue comme une femme de mauvaise vie. Mais elle avait entendu parler du Seigneur Jésus. Et dans le verset 34, avant, il nous est dit qu'il était connu comme l'ami des publicains et des pécheurs. Voilà ce qui a attiré cette femme, ce qu'elle avait entendu dire de Jésus, du Sauveur, que c'était l'ami des publicains et des pécheurs. Il n'était pas l'ami des riches, bien qu'il est venu aussi pour tous, mais peut-être qu'elle avait entendu aussi de ses lèvres cette invitation qui nous est rapportée dans Matthieu. Venez à moi, vous qui peinez ou qui êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette femme était chargée, lourdement chargée par ses péchés. Et dans cette scène, il n'y a pas un échange de paroles. Cette femme, elle rentre dans la maison du pharisien. Elle ne dit pas un mot. Elle était connue comme pécheresse, mais elle va outre ce fait et elle vient et elle se met derrière le Seigneur Jésus, verset 38, et elle se tenait derrière à ses pieds et pleurait. Et elle se mit à les arroser de ses larmes et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête et couvrait ses pieds de baisers et les loignait avec le parfum. Cette femme était décidée à rencontrer le Seigneur Jésus. Et c'est une décision que nous devons tous connaître. Et peut-être qu'ici, il y a des enfants qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Mais il faut venir à lui. Il ne faut pas rester en arrière. Il faut s'approcher. Et avec le sentiment de nos péchés, de notre péché. Et il n'y a pas d'âge. Nous sommes tous lourdement chargés par le péché. Et cette femme, donc, elle se met derrière lui et elle pleure. Elle pleure à cause du sentiment de ses fautes, de sa vie, de sa mauvaise vie. Et elle n'avait sans doute aucun ami. Elle était mal considérée, et nous comprenons certainement pourquoi. Mais cette femme, elle a décidé de venir à Jésus. Et elle est pressée par son besoin. Elle est pressée par le besoin de trouver quelqu'un qui va se charger de ses péchés. Et nous voyons, et il nous est permis de voir le résultat de cette rencontre entre Jésus et cette femme. Elle pleure. Elle pleure. Mais en même temps, elle est consciente de l'amour du Sauveur. Elle est consciente de la miséricorde, des compassions de son Sauveur. Pourquoi on peut dire cela ? C'est elle couvre ses pieds de baisers. Et elle brise aussi ce vase d'albâtre. Et nous voyons ce résultat extraordinaire. Et le Seigneur, à la fin du chapitre, il dit à propos de cette femme, « Elle n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. » Et il dit à Simon le pharisien, « Tu ne m'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un parfum. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés. » Pouvons dire que cette femme, elle est née de nouveau. Simplement à la rencontre du Sauveur. Elle a pleuré, consciente d'être chargée si lourdement par ses péchés. Et il faut toujours commencer par ça, c'est-à-dire la repentance, la confession de notre état de pécheur, de ce que nous sommes par nature. Et cette femme, donc, Eh bien, elle a oint les pieds du Seigneur, elle a couvert ses pieds de baisers, et le Seigneur dit « Ses nombreux péchés sont pardonnés ». Nous voyons qu'elle a fait ce demi-tour, elle s'est convertie au contact du Seigneur Jésus. Et maintenant, consciente, sans aucun doute, que ses péchés étaient nombreux, eh bien, elle rend au Seigneur un amour encore plus grand. Hein? Quand nous avons ce sentiment de nos péchés, et plus nous avons ce sentiment qu'ils sont lourds et grands, eh bien, en réponse, notre amour devrait-il ne pas être plus ardent pour le Seigneur Jésus. Et nous voyons donc encore une fois que le Seigneur, eh bien, il a guéri un esprit brisé, un cœur brisé. Le Seigneur, il délivre du péché, il guérit ainsi un homme, une femme de cette blessure mortelle, comme nous l'avons évoqué dans le cantique. Mais il peut aussi guérir les cœurs brisés, parce que nous avons mal agi, même en tant que chrétiens. Peut-être que nous renions le Seigneur dans certaines circonstances. Pierre a eu le cœur brisé à cause de cela. Eh bien, il faut que nous sachions que le Seigneur, il est toujours là dans toutes les circonstances les plus douloureuses dans une vie, la perte d'un enfant, la perte d'un conjoint, la perte peut-être d'amis chers. Eh bien, le Seigneur, il est là, il est proche et il désire toujours guérir les cœurs brisés.
Sans prolonger, juste peut-être lire encore un simple passage. Dans le psaume 51, on voit aussi ce que Dieu nous dit sur ce cœur brisé et humilié. Psaume 51, verset 17. Peut-être lire déjà verset 16. Car tu ne prends pas psaume 51, verset 16. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. L'holocauste ne t'est point agréable. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Et ensuite, fais du bien dans ta faveur à Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et au sacrifice qu'on brûle tout entier. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Juste voir l'enseignement que nous avons aussi dans ce passage. On voit que ce cœur brisé et humilié, cet esprit brisé, c'est quelque chose que Dieu ne méprise pas. On a vu quelle manière le Seigneur Jésus s'est occupé de ceux qui avaient le cœur brisé pour les guérir. On voit qu'il y a peut-être plusieurs sorte de situations qui peuvent amener un croyant à avoir l'esprit brisé. On a vu, cela peut être des circonstances extérieures, cela peut être peut-être un manquement dans notre vie, comme Pierre. Bien, on voit que Dieu veut nous amener à prendre cette place devant lui. Mais quel est le but que Dieu poursuit après cela? Il veut nous guérir, mais on voit aussi de quelle manière il veut certainement se servir de telle situation pour qu'à la fin ce soit lui aussi qui soit glorifié. On voit que on voit ça dans le dernier verset, le verset 19, quand cette esprit brisé et humilié est manifesté devant lui, quand c'est cette position que nous prenons devant lui, il peut nous guérir, on l'a vu, mais il peut aussi maintenant produire dans nos cœurs la louange, nous rendre capables de lui apporter des sacrifices de justice, l'Holocauste, et pour que ce soit lui qui soit glorifié, que nous puissions avoir cette attitude qui convient devant lui pour lui apporter la louange. Bien que si nous puissions avoir aussi cette pensée devant nous aussi de voir ce que Dieu veut produire à la fin quand il permet des situations dans lesquelles il nous amène dans cette position d'avoir un cœur brisé et humilié, c'est qu'à la fin il veut lui être nous amener dans cette position où nous pouvons le glorifier.
Le 94, 31 à 3, en 1994.